Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Avant la prédication qui arrive, nous allons lire les textes sur lesquels elle se fonde. D'abord, le texte proprement dit de la prédication dans Jacques, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si, plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre, les riches. Ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Maintenant, juste un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Au chapitre 19, le verset 15. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Et encore un dernier texte, cette fois à nouveau dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Si le Saint-Esprit n'éclairait que le cœur de ceux qu'il considère comme étant bien habillés et ayant un compte en banque bien rempli, nous ne serions sûrement pas tous éclairés ce matin. Mais le Saint-Esprit ne fait pas de considération de personne. Nous comptons donc avec confiance sur son œuvre nécessaire en nous ce matin. Nous poursuivrons aujourd'hui notre périple dans l'épître de Jacques, où nous avons déjà abordé le premier chapitre en sept prédication. Donc je ne vais pas les refaire maintenant, mais juste avoir quelques éléments qui nous permettent de revenir dans cet épître. Nous avons remarqué que le Saint-Esprit, par Jacques, cherche à encourager les croyants dans leur foi. Tout d'abord, il leur parle des épreuves et des tentations, qui sont des lieux, en fait, où la foi est formée, renforcée, et où elle est essentielle. Il parle même de la joie dans l'épreuve. Il parle de la sagesse que l'on peut demander à Dieu dans la foi. Il parle des tentations, et on a vu qu'il parlait des tentations, des richesses et de la pauvreté. En fait, la pauvreté et la richesse ont leur tentation, que l'on est appelé à vivre dans la foi en un Dieu bon. Ensuite, Jacques va souligner les effets de la foi. Par exemple, la lenteur de la colère, tout en étant impliqué et en cherchant le bien des autres, est une marque de foi. Mettre la parole de Dieu en pratique et prendre soin des plus faibles indique une foi vivante également. Et aujourd'hui, nous continuons sur le même thème, de démontrer la foi par des aspects visibles. C'est le titre de cette prédication, « La foi par l'impartialité et l'amour du prochain ». Je vous donne déjà la thèse de Jacques, puisqu'il le fait aussi tout de suite, et ensuite nous allons l'expliquer. Donc si vous prenez vos Bibles, au chapitre 2 de Jacques, au premier verset, vous avez la thèse de Jacques qui est posée. Il dit « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi à notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. » Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous encourage, nous encourage à régulièrement aller voir d'autres traductions de la Bible pour comprendre les textes. Nous en verrons 4 maintenant, dont une transcription aussi. En passant, c'est la raison pour laquelle nous avons différentes Bibles avec différents textes. Non pas que la Bible n'est pas la même, mais nous avons un original pour le Nouveau Testament en grec, et ce sont des traductions. Il y a des traductions différentes. Voilà pourquoi nous avons des Bibles différentes. Voilà, comme j'ai fait cette petite parenthèse, vous avez déjà oublié ce que Jacques a dit, donc je vais le relire, et ensuite vous donner les différentes traductions. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Ça c'est donc la Colombe, second révisé 78, qu'on utilise habituellement ici. Ensuite, une autre traduction. « Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » C'est la traduction œcuménique de la Bible. Ou encore, « Mes frères, n'ayez point la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorieux en ayant des égards à l'apparence des personnes. » Ça, c'est la traduction Martin. Ou encore, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » C'est la seconde maintien. Encore, « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est la semeur. Et maintenant, une transcription, donc c'est plusieurs traductions mises ensemble, si vous voulez, qui dit ceci. « Mes frères, rappelez-vous que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié est inconciliable avec une attitude partiale inspirée par des préjugés de classe. » C'est la parole vivante. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Nous pourrions le dire encore de plusieurs autres manières. Mais j'aimerais simplement le dire en 3 façons différentes. La première, c'est que la pratique de la foi en Jésus-Christ n'est pas compatible avec la pratique de la différenciation de personnes selon leur apparence. On ne peut pas vivre sa foi en Jésus-Christ et faire des différenciations de personnes. Ce n'est pas compatible. Ou encore, nous pouvons retirer de ça, la foi se voit lorsque quelqu'un a le même respect pour une personne rejetée par la société que pour une personne élevée par la société. Donc la foi se manifeste de cette manière-là également. Et dernièrement, la foi et la confiance dans les critères de Dieu et non pas dans les apparences visibles. Alors afin de mieux saisir cela, nous allons réfléchir en 2 temps aujourd'hui. Le premier temps est un réflexe que je nous encourage à avoir lorsque nous réfléchissons à notre manière de vivre les choses morales que Dieu nous demande de vivre, c'est-à-dire à regarder notre divin modèle. Si nous voulons apprendre à pardonner, observons, étudions, remplissons-nous de la manière dont Dieu agit et mettons-nous aux côtés de Jésus-Christ qui est venu manifester Dieu sur terre et chercher à l'imiter dans son pardon, dans sa manière de pardonner. Nous voulons apprendre à éduquer les enfants. Eh bien, observons, étudions et remplissons-nous du seul Père parfait, juste et rempli de bonté et d'amour qui nous donne un exemple. Nous voulons apprendre à dire la vérité et savoir quelle est la place des mensonges dans des cas difficiles. Eh bien, observons et remplissons-nous de la manière dont Dieu traite cela dans ce qu'il fait et ce qu'il nous enseigne. Nous voulons apprendre à ne pas regarder à l'apparence, à ne pas faire de considération de personne, à être impartial, à avoir une réaction qui n'est pas influencée par la classe sociale de l'autre. Eh bien, observons et remplissons-nous du seul être impartial, traitant tous sans considération de personne, Dieu lui-même. Ce sera notre premier point, en fait. Notre premier point sera que Dieu ne regarde pas à l'apparence et nous allons observer comment lui agit. Ensuite, nous entrerons dans l'exemple du favoritisme lié à l'apparence que Jacques nous donne ici dans ce texte. Ce sera notre deuxième point. Et nous terminerons par la loi royale qui manifeste notre foi comme troisième point. Exerçons donc, premièrement, le réflexe de regarder à Dieu pour mieux comprendre les attributs moraux communicables que nous sommes aussi appelés à vivre. Regarder à Dieu pour apprendre à connaître comment mieux vivre les attributs moraux communicables que nous sommes appelés à vivre. Donc je vous invite à garder un petit doigt dans Jacques et nous allons ouvrir un texte dans Deutéronome, le Deutéronome 10, où nous verrons un texte qui parle de Dieu en lien avec ce sujet de la partialité ou de l'impartialité. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel notre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Ça nous rappelle ce que Jacques nous a dit sur la vraie religion à la fin du premier chapitre. Et ce texte est repris dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et c'est intéressant de voir que les trois seuls autres textes dans le Nouveau Testament qui utilisent le même mot ici pour parler de considération de personnes, donc les trois autres textes qu'on a dans le Nouveau Testament, ne nous parlent pas de ce que nous devons faire, mais nous parlent de ce que Dieu fait justement. On a Romains 2, 11 où il est dit « car auprès de Dieu, il n'y a pas considération de personnes ». Ou encore Éphésiens 6, 9 quand il est dit « quant à vous maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces ». Sachant que leur maître est le vôtre, qui est devant les cieux, et devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Ou encore Colossiens 3, 25, pour avoir les trois textes, où il est dit, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas d'acception ou de considération de personne. Dieu ne fait pas de considération de personne. Ou comme le transmet une autre traduction, il n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Et il veut que nous fassions de même. On a entendu Lévitique 19:15 tout à l'heure, qui demandait à faire exactement cela. À ne pas donner un avantage aux pauvres ou aux riches. Jeudi soir d'ailleurs à l'étude biblique, nous avons parlé d'un texte bien connu qui est en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. Quelqu'un se souvient du texte? Non, peut-être pas. Alors je vais commencer par le lire. « Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et nous pourrions prendre en fait de nombreux textes expliquant que Dieu est juste, qu'il n'est pas influencé par l'aspect extérieur, par ce qui est visible. Nous pouvons aussi simplement regarder ce qu'il a fait avec des personnes. Alors si nous regardons toute l'histoire de l'Ancien Testament, nous constatons que Dieu a appelé toutes sortes de personnes. Il a appelé toutes sortes de personnes. Abraham est un idolâtre que Dieu a choisi pour donner la foi et en faire sortir un peuple. Moïse, un condamné à mort à sa naissance, qui est devenu membre de la cour du Pharaon. Rab, une prostituée entrée dans la lignée du Messie. David, le petit dernier qu'on laissait dans les champs garder les moutons, que Dieu a appelé. Esther, une jeune fille orpheline, choisie pour sauver son peuple. Sans parler de tous les prophètes, de tout l'arrière-plan des prophètes que Dieu a appelés. Imaginez que ces personnes viennent à l'église là. Abraham, l'idolâtre, arrive. Avec toutes ses croyances. Ou Moïse, le gouverneur égyptien. Ou Rab, une prostituée. Ou David, le petit dernier d'une grande famille. Pas très important. Ou Esther, une orpheline, qui a juste un oncle qui prend bien cousin, qui prend soin d'elle. Ou Daniel, le ministre. Ou encore Samson, le prisonnier. Comment les aurions-nous accueillis? Et dans le Nouveau Testament, ça ne change pas. Dieu aussi a accueilli des personnes de toutes sortes. Il a accueilli Joseph, un charpentier de village, pour être le père adoptif du Fils de Dieu. Ou Jeanne, une riche femme d'intendant de roi, qui a suivi Jésus et en a pris soin. Ou des pauvres aveugles ou estropiés qui sont venus à lui. Ou des chefs militaires qui sont venus vers Christ. Ou encore des pêcheurs ou des collecteurs d'impôts. Ou même un pharisien notoire, Saul de Tarse. Qu'aurions-nous fait s'ils étaient venus ici? Ouais, nous connaissons la suite de l'histoire, d'accord? Qu'aurions-nous fait? Dieu les a tous accueillis d'eux-mêmes. Il leur a tous fait une place dans son cœur et les a engagés à vivre selon les capacités et les dons qu'il leur a donnés. La foi en Jésus-Christ, en fait, est un cadeau à transmettre. Et en fait, il n'y a pas de barrière de quoi que ce soit qui devrait arrêter ce cadeau. L'Évangile est pour tous et nous met tous au même niveau. L'Évangile est pour tous et nous met tous au même niveau. Que nous soyons riches ou pauvres, grands ou petits, forts ou faibles, beaucoup instruits ou peu instruits, d'un niveau social humble ou d'un niveau social élevé, connus ou inconnus, femmes ou hommes, adultes ou enfants, membres ou anciens, patrons ou employés, enfin, etc. Nous avons tous exactement la même place de pécheurs devant un Dieu parfaitement saint. Nous avons tous exactement la même place de pécheurs devant un Dieu parfaitement saint. Pour chacun de nos péchés, nous amassons un trésor de colère pour un juste jugement de Dieu. Et nous avons tous besoin, que nous soyons riches ou pauvres, tous besoin que cette colère soit détournée de nous afin de ne pas subir l'enfer. Nous sommes tous dans la même situation. Aucune apparence extérieure ne pourra changer cela. Vous pouvez vous habiller le mieux possible et mettre le plus de parfum possible ou ne plus jamais vous changer, ne plus jamais vous laver. Ça ne changera rien à votre état devant Dieu. Dieu ne fait acceptation ou acception de personne. Il voit le cœur corrompu de chacun, même de celui qui se croit le meilleur du monde. Et la bonne nouvelle, ça c'est une nouvelle qui n'est pas facile à entendre, hein, quelque part, mais c'est la réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui viennent à Christ sont également acceptés. Tous ceux qui viennent à Christ sont également acceptés. Il n'y a rien d'extérieur qui peut favoriser ou empêcher d'aller vers Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien d'extérieur qui peut favoriser ou empêcher d'aller vers Christ. C'est la bonne nouvelle, car c'est lui seul qui peut détourner la juste colère de Dieu afin de nous sauver d'une mort continuelle. C'est le seul qui peut changer nos cœurs mauvais, comme Ézéchiel le dit d'une façon imagée, hein. Il transforme nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne vit pas, hein. Il n'y a pas de vie spirituelle. On a un cœur de chair qui vit spirituellement. Jésus a dit, et vous connaissez peut-être ce texte, je l'aime beaucoup, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi ». Voilà pourquoi nous avons ces fameux textes de Galates 3.28 ou Colossiens 3.11, hein, qui malheureusement sont trop souvent utilisés abusivement pour d'autres raisons, car il s'agit ici de l'égalité face au salut, face à sa place en Christ, son entrée dans la famille de Dieu. Je vous les lis. Galates 3, à partir du verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Ça, c'était dans Galates. Ou l'autre texte dans Colossiens, où il est dit, Colossiens 3:9, « Ne mentez pas les uns les autres. Qui vous a dépouillé de la vieille nature avec ses pratiques et revêtu de la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé ? Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » On pourrait dire encore, il n'y a plus riche ni pauvre, ou toute la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, toutes les différences dont nous avons déjà parlé, car tous ceux qui sont en Christ sont un avec lui. Il n'y a pas de différence. Cela n'enlève pas les rôles que Dieu a mis en place, hein, comme le rôle de l'homme et de la femme, le rôle des parents et des enfants, le rôle des anciens et des membres, des patrons et des ouvriers, de l'autorité civile et des citoyens. Mais il n'est pas question d'aspects extérieurs comme la richesse ou la pauvreté qui deviendrait un critère de donner plus ou moins de respect, non? Tous ceux qui viennent à l'église, et il est dit ici, hein, s'ils entrent dans votre assemblée, tous ceux qui viennent à l'église doivent être considérés comme égaux devant Dieu. Car il faut bien comprendre ce que Jacques dit dans ce texte, hein, on y revient justement. Il parle de quelqu'un qui entre dans l'assemblée. Et qu'est-ce qu'on est censé faire dans l'Église selon le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans l'Église? Ça, c'est un élément important à comprendre, puisque c'est ce qui va nous aider à comprendre pourquoi Jacques dit tout cela. Eh bien, on est censé adorer Dieu, enseigner sa parole, annoncer l'Évangile, faire des disciples, pratiquer les ordonnances et la discipline, s'édifier les uns les autres dans l'amour et mettre Christ au centre de notre considération. Voilà ce que l'Église est censée vivre. Et si vous résumez par dire que mettre Christ au centre de la considération, bien vous avez une bonne clé. Christ doit être au centre de nos considérations. Et voilà ce qui est utile d'avoir dans nos pensées en abordant ce texte. Parce que la Bible est un livre qui se complète. On ne peut pas lire un texte biblique tout seul sans avoir l'ensemble de la parole. Voilà pourquoi on a réfléchi maintenant à qui est Dieu, ce qu'il est, en lien avec cette acceptation de personne. Et je nous encourage à toujours avoir ce réflexe. Quand on veut vivre quelque chose de moral devant Dieu, qu'il nous demande d'aller chercher comment lui le vit dans toute sa parole et comment Christ le reflète parmi nous, puisque Christ a manifesté Dieu dans ce monde. Nous sommes maintenant prêts à reprendre la thèse de base de Jacques dans le passage du jour. Donc je vous invite à revenir dans Jacques 2. Hein, nous liserons le verset 1 et ensuite jusqu'au verset 7 pour entrer dans notre deuxième point, puisque là nous verrons une illustration justement que Jacques donne ici dans son texte. Donc Jacques 2, le verset 1. « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? » Jusqu'ici, nous continuerons tout à l'heure. Pour quelle raison les lecteurs de Jacques feraient-ils une différence entre la personne riche et pauvre? Pour quelle raison? Avez-vous des idées? Pour quelle raison? Pourquoi on favoriserait le riche et on mépriserait le pauvre? Eh bien, on pourrait dire que la personne avec l'anneau d'or avait certainement des pouvoirs publics. Il y a toute une notion d'image derrière cet anneau d'or, qui pouvait peut-être être utile pour l'Église, imaginez. Quelqu'un qui a une influence dans le cadre de la politique pour aider l'Église ou pour nous aider personnellement. Donc, il s'agissait d'être en bon terme avec cette personne et même de la mettre en valeur. Voilà peut-être une raison, avec ce qui nous est donné. Ou peut-être une autre raison, c'est qu'un habit resplendissant est agréable à voir. Donc on veut plutôt la mettre dans une position où tout le monde peut la voir et pas mettre quelque chose qui n'est pas agréable à voir, où tout le monde peut voir. Peut-être, c'est une autre raison. Moi, j'amènerai encore une autre raison. Ils ont oublié que Jésus est le chef de l'Église et que c'est lui qui choisit ceux qu'il veut enrichir spirituellement et que pour cela, il ne regarde pas l'aspect extérieur. Oublier en fait que Jésus-Christ est le chef et qu'on va agir comme Jésus-Christ agit. Ils ont oublié que les riches et les pauvres ont leurs tentations. Dans le chapitre précédent, on avait vu que les riches et les pauvres ont leurs tentations et qu'en fait, en agissant tel que Jacques le dit ici, il n'aide ni le riche qui doit apprendre à s'humilier, ni le pauvre qui doit apprendre à se glorifier en Christ. Jacques permet de comprendre que le pauvre n'a pas seulement reçu une place en arrière dans la salle, mais qu'il a été déshonoré, qu'il a été méprisé, mis de côté de façon claire et manifeste. Ça, c'est dans l'exemple ici. Donc, ce n'est pas juste, on donne un peu de place à quelqu'un, puis l'autre, on ne s'en occupe pas. C'est carrément mettre de côté ou mettre dans une situation méprisante. L'évangile, pourtant, c'est accueillir, c'est relever, c'est encourager, c'est montrer un chemin de rétablissement face à son péché, c'est montrer la valeur aux yeux de Dieu de chaque créature. En plus, Jacques permet de comprendre que les riches, en général, oppriment les pauvres, se font de l'argent sur le dos des pauvres, de leurs ouvriers, des contribuables. Et lorsqu'ils voient une petite faille, ils partent en justice pour récupérer le plus d'argent possible. Et souvent, ils n'en ont rien à faire de Jésus-Christ. Ils s'en moquent et même le blasphèment. C'est étrangement actuel. En fait, rien n'a changé. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas accueillir une personne riche ? Mais là n'est pas la question. Car nous sommes justement invités à accueillir tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme, ni pour les riches, ni pour les pauvres. Le texte est en train de dire qu'il ne faut pas faire de favoritisme, il ne faut pas partir dans l'autre côté. Il n'y a ni favoritisme pour les riches, ni favoritisme pour les pauvres. Tous sont accueillis pour être conduits à Christ, le chef de l'Église. Voilà le rôle de l'Église. Ce n'est pas d'accueillir pour être simplement bien ensemble, c'est d'accueillir pour aller vers Christ. C'est lui le centre de nos rencontres, c'est lui qui doit être le centre de l'Église. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de pauvres dans l'Église ou de gens qui ne sont pas très connus. Mais en fait, le Saint-Esprit, par Paul, plus tard, Jacques a été écrit avant, mais plus tard, le dira dans les Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » C'est un choix de Dieu en fait. C'est lui qui le veut ainsi. « Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas être en Christ, mais il est appelé à entrer dans une démarche où il glorifie Dieu seulement. C'est ça que l'Évangile nous enseigne, c'est ça que toute la parole nous enseigne. Tout le monde doit être accueilli pour honorer le nom de Christ dans l'Église, non pas pour être mis en avant, mais pour que Christ soit mis en avant. Si quelqu'un vient dans l'Église pour se moquer de Jésus-Christ, il ne sera pas mis dehors pour une raison d'un aspect extérieur, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Se moquer de Christ, c'est se mettre soi-même hors de l'Église. Puisque l'Église est le lieu où Christ est glorifié, est le lieu où les personnes qui lui appartiennent, qui ont fait allégeance lors de leur baptême à Christ, si on veut, protègent son nom, si vous voulez. Donc c'est un lieu où Christ doit être mis au centre. Jacques ne dit pas ici qu'il faut accepter n'importe quelle pensée, n'importe quel enseignement, n'importe quelle mondanité qui s'oppose à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Non, tout au long de l'épître, en fait, il enseigne de vivre selon la parole, de mettre la parole de Dieu en pratique. Par contre, Jacques indique clairement que ceux qui sont dans l'Église ne doivent pas faire des distinctions de personnes en regardant les personnes qui entrent dans l'Église. en regardant les aspects extérieurs. Rappelons-nous, en étant dans l'Église, nous accueillons toute personne pour la conduire vers Christ, qui nous guidera, Christ nous guidera ensuite dans notre manière de vivre notre foi dans et hors de l'Église. Ce qui signifie que nous sommes appelés à avoir le même respect que Jésus a pour ceux qui sont autour de nous, le même que lui. Encore un petit exercice d'imagination. Si votre joueur de foot préféré venait à l'église, ou le meilleur joueur d'échecs du monde, ou le président ou le ministre que vous appréciez particulièrement pour ses actions courageuses, ou si Elon Musk venait ici, ou Bill Gates, comment réagiriez-vous? Ça peut d'ailleurs être positif et négatif, hein? Nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ veut que nous vivions, d'accueillir celui qui vient pour entendre la parole de Dieu. Si une personne sans abri entrait ici, qui n'a pas changé ses habits depuis quelques jours parce qu'il n'a pas trouvé d'endroit, que ferions-nous? Comment réagirions-nous? Ayons toujours à l'esprit que chacun est bienvenu pour venir écouter la parole de Dieu. Et veillons à ce que chacun se sente bien accueilli ici dans l'église, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant. Mais continuons à avoir cette idée. Exerçons-nous à nous dire, mais chaque dimanche, je veux être quelqu'un qui accueille l'autre. Je prie même le Seigneur que s'il y a des personnes que je ne connais pas, qui ne sont peut-être pas faciles d'accès, que j'aie ce courage, ce désir d'aller pour accueillir. Et n'hésitons pas dans notre accueil de parler de notre Seigneur à ceux qui viennent à l'église. Si quelqu'un vient à l'église et qu'elle voulait parler de Jésus-Christ, c'est normal. En fait, si quelqu'un vient à l'église et que nous ne lui parlons pas de Jésus-Christ, c'est pas normal. Que la personne soit riche ou qu'elle soit pauvre. En fait, nous avons une richesse tellement grande en Christ que tous ceux qui viennent ici, de toute façon, ne peuvent être que pauvres quelque part. C'est la richesse de Christ que nous voulons transmettre à tous ceux qui viennent. Et Jacques poursuit par rebond, comme à son habitude, on a vu dans cet épître, il parle de quelque chose, après ça lui fait penser à quelque chose, qui lui fait penser à quelque chose, et c'est identique ici. En traitant tout le monde de la même manière, il fait un lien avec ce qu'il appelle ici la loi royale, ou si vous voulez, le deuxième plus grand commandement, qui déclare qu'en fait, que de l'amour pour le roi va découler l'amour pour tous. C'est le commandement qu'on a dans Matthieu 22, par exemple. Et là, lisons le texte dans Jacques à la suite, verset 8. Jacques, verset 8, chapitre 2. Donc, pour le troisième point, la loi royale manifeste la foi. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques insiste ici. C'est comme il a dit quelque chose, il ne faut pas faire d'acception de personne. On a compris maintenant, on passe à autre chose. Ah non, 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 lui il insiste là, il en remet une couche. Guidé par le Saint-Esprit, il veut que ses lecteurs comprennent que faire une distinction entre des personnes en regardant leur aspect extérieur n'est pas simplement une maladresse, c'est un péché. Le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu ou ne pas y prêter attention. Vous connaissez le 1, 2, 3, 4. Puis vous mettez Jean, Jean 3, 4, et puis là vous avez la définition du péché. Quelqu'un qui fait plus attention lorsqu'un riche vient ne veut peut-être pas désobéir à la loi de Dieu. C'est possible, parfois on se dit on ne fait pas exprès, vous êtes d'accord. Quelqu'un qui vient, on donne un peu plus d'attention, on ne se rend peut-être pas vraiment compte. Ok, mais c'est comme en voiture. Lorsque la route est droite, vous avez une voiture puissante, vous êtes en train de chanter au volant, et puis tout à coup, flash! Le radar vous rappelle que c'est une désobéissance à la loi. Alors que vous n'étiez pas en train de vous dire « je veux désobéir à la loi ». Mais non, vous avez une voiture puissante, vous chantiez à fond la caisse et flash. En fait, Jacques ici met le radar. Il dit que si nous faisons une différence dans la manière de traiter une personne parce qu'elle présente un avantage, flash, nous péchons. Ça va aussi nous aider parfois quand on se dit « est-ce que j'ai péché dans ma vie ?» Des fois, on a de la peine à trouver des péchés dans ma vie. On est tellement des propres justes qu'on a besoin de ces radars qui nous aident à voir « ok, c'est vrai, j'ai péché. » Donc, si nous faisons une différence dans la manière de traiter une personne parce qu'elle représente un avantage, nous péchons. Et Jacques continue à insister, il n'a pas fini en plus. Il veut que l'on comprenne que ce péché n'est pas rien, comme chaque péché d'ailleurs. Le respect de la loi de Dieu est comme une longue chaîne qui nous permet d'atteindre la porte du lieu parfait. Une longue chaîne qui nous fait atteindre la porte du lieu parfait. Mais dès qu'un maillon est cassé, que ce soit un grand ou un petit maillon, la chaîne est cassée en deux. Une chaîne cassée en deux n'atteindra plus ce lieu. On a des bouts de chaîne, vous ne pouvez plus y atteindre. Jacques ici n'est pas en train de classifier les péchés en disant qu'il y en a qui sont plus conséquents que d'autres. Il est en train de dire que celui qui fait du favoritisme en lien avec un aspect de la personne commet un péché et que l'on devient ainsi transgresseur de la loi. Ce qui signifie qu'on est sous un juste jugement. Le radar, quand il indique une vitesse supérieure à celle qui est autorisée, indique une amende qui est un juste jugement, qui est d'ailleurs connu d'avance, avant même que l'infraction soit commise. Et Jacques, dans son élan, veut souligner que la chaîne est brisée par n'importe quel commandement. Il parle d'adultère et de meurtre. Bon, vous allez me dire, qui a commis adultère et meurtre parmi nous, physiquement? Mais qui n'a jamais eu une pensée romantique avec une autre personne que son conjoint? Et ça marche aussi pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est l'esprit de la loi de l'adultère, en fait. Ou encore, qui n'a jamais été énervé contre quelqu'un et a pensé qu'il était un imbécile? C'est l'esprit de la loi derrière le meurtre. Donc si je demandais à nouveau qui a déjà commis un adultère et un meurtre, eh bien toutes les personnes honnêtes lèveraient la main. Et nous devrions comprendre que nous sommes sous la juste condamnation de Dieu, tous, riches ou pauvres. Si Jacques veut bien faire comprendre que la considération de personne n'a rien à voir avec la foi et que c'est un péché, il veut aussi que nous comprenions que nous pouvons nous en détourner et encourager d'autres à s'en détourner avec la miséricorde en arrière-plan. Ça, c'est un élément clé à la fin, cette miséricorde en arrière-plan qui va en fait nous motiver notre amour pour notre prochain. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il a une dette à payer à Dieu et que vous avez en même temps une personne qui est prête à payer cette dette à côté de vous, vous avez une autre motivation pour lui parler de cette dette, pour l'accueillir, pour l'encourager. Et si en plus vous-même vous avez vécu cette situation où cette dette a été payée, vous serez bienveillant envers celui qui a encore cette dette à payer à Dieu. Bienveillant. Bienveillant. C'est pour ça que Jacques termine ici par cette phrase tellement forte dans Jacques 2, verset 13. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Dieu a envoyé son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir cette vie éternelle et vivre cette miséricorde, puisque le jugement est tombé sur Jésus-Christ. Le jugement n'est pas écarté, il est juste, Dieu est juste. Mais Christ le prend sur lui pour celui qui se tourne vers lui, qu'il soit riche ou pauvre. Voilà notre motivation lorsque quelqu'un entre dans l'église. Qu'il soit riche ou pauvre, nous l'accueillerons avec respect, avec amour, avec désir de le conduire à Christ. Donc en conclusion, vous rappelez la thèse de Jacques au début du passage qui dit « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La pratique de la foi en Jésus-Christ n'est pas compatible avec la pratique de la différenciation de personnes sur l'apparence. Ce n'est pas compatible. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. La foi se voit lorsque quelqu'un a le même respect pour une personne rejetée par la société que pour une personne élevée par la société. Ça peut nous aider. Est-ce que j'ai le même respect? Est-ce que je veux avoir le même respect? Est-ce que je prie Dieu de me donner ce même respect et je m'y exerce? C'est la foi, en fait. La foi en Jésus-Christ. Et la foi est la confiance dans les critères de Dieu et non pas dans les apparences visibles. Donc repentons-nous d'avoir été trop souvent guidés par ce qui était visible et remercions Dieu de tout notre cœur qu'il n'a pas regardé notre apparence pour nous accueillir. Il n'a pas regardé les aspects extérieurs pour nous accueillir. Il nous a accueillis tels que nous étions, tels que nous sommes. Jésus-Christ est mort sur la croix pour des pauvres et des riches, pour des célèbres et des inconnus, pour des enfants et des adultes. L'évangile, c'est l'acceptation, l'accueil de personnes. C'est une bonne nouvelle. C'est ainsi qu'il m'a accepté et accueilli. C'est ainsi qu'il va le faire pour tous ceux qui se tournent vers lui avec foi et reconnaissant son péché. Il ne regardera pas à l'apparence. Et remercions Dieu d'avoir également été accueilli dans son Église, non pas pour des questions d'apparence, mais parce que la grâce de Dieu était agissante. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance d'avoir ta parole. C'est vrai que Jacques ici encourage ses frères et sœurs dans la foi à tourner leur regard vers toi, à ne pas avoir de considération de personne. Que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit en fait notre pilier. Que Jésus-Christ soit notre guide. Qu'il soit non seulement notre guide, mais celui vers qui nous voulons guider toute personne que nous rencontrons, qu'elle soit riche ou pauvre. Et qu'ainsi nous évitions cet écueil du favoritisme, cet écueil de faire attention aux apparences, afin, Seigneur, non pas de diminuer de respect, mais peut-être même d'en avoir encore plus envers chacun, parce que c'est tes créatures. Et Seigneur, cela nous rappelle que tu n'as pas fait exception de personne. Tu nous accueilles. Tu n'as pas regardé si nous étions parfaits, riches, célèbres. Non, Seigneur, tu nous accueilles. Quelle grâce. Aide-nous à le saisir, afin de le vivre et de comprendre le cœur de ce que Jacques nous enseigne ici, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.